Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Protagoras est un dialogue de jeunesse de Platon, construit autour de la rencontre entre Socrate et le célèbre sophiste Protagoras. Le cadre est athénien. Mais le sujet dépasse nettement la querelle entre deux maîtres de parole. Il porte sur la possibilité de transmettre la vertu, comprise comme la capacité de bien vivre parmi les autres et de prendre part aux affaires de la cité. Protagoras affirme enseigner l'art politique aux jeunes gens qui le fréquentent. Socrate examine cette promesse par une suite de questions, de distinctions et de rapprochements parfois déstabilisants. Le texte ne propose donc pas un traité systématique, il met en scène des méthodes rivales de formation intellectuelle. La longue démonstration persuasive du sophiste et la dialectique exigeante de Socrate. Parmi les moments majeurs figurent le mythe de Prométhée et les débats sur l'unité des vertus, le plaisir, la connaissance et la faiblesse de la volonté. Le dialogue demeure essentiel pour comprendre les liens entre éducation, morale et citoyenneté dans la pensée grecque. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la question directrice, la vertu, peut-elle devenir un objet d'enseignement ? Le dialogue commence par une difficulté qui touche directement au métier de Protagoras. Si celui-ci reçoit des élèves et promet de les améliorer, il doit pouvoir indiquer ce qui est enseigné et montrer que cet enseignement produit un savoir transmissible. Socrate souligne pourtant une apparente contradiction dans la vie civique athénienne pour les compétences techniques, la cité consulte des spécialistes, tandis que pour les décisions politiques, elle accepte la parole de tout citoyen. Cette pratique semble suggérer que le jugement politique ne relève pas simplement d'une expertise enseignable. Protagoras répond en élargissant le sens de la formation. La vertu civique ne ressemble pas à un art rare, tel que la médecine ou la construction navale. Elle concerne les dispositions sans lesquelles aucune communauté ne peut subsister, notamment le respect de la justice et la retenue devant ce qui est honteux. Tous doivent donc en recevoir une part et tous participent à sa transmission par la famille, les lois, les corrections et les usages collectifs. Le débat ne se réduit pas à une opposition entre dons naturels et leçons scolaires. Il demande comment une cité façonne des individus aptes à vivre ensemble. Platon laisse y voir une tension durable, une éducation morale peut être largement partagée, sans être pour autant une science clairement définie, garantie dans ses résultats et possédée par un maître unique. Deuxièmement, le mythe de Prométhée expliquait pourquoi toute cité exige justice et retenue. Dans sa grande intervention, Protagoras recourt au récit de Prométhée et de Zeus afin de répondre à Socrate sous une forme imagée. Les êtres vivants reçoivent des moyens de survie, mais les humains, laissés initialement sans protection suffisante, obtiennent le feu et les savoirs techniques. Ces ressources ne suffisent pas, les humains restent incapables de former des communautés stables et se nuisent mutuellement. Zeus fait alors distribuer à tous la justice et le sens de la honte ou de la retenue. Le point philosophique est précis. Les métiers peuvent être inégalement répartis, car une cité a besoin de quelques artisans compétents dans chaque domaine. En revanche, les conditions morales de la vie commune doivent être partagées par chacun, faute de quoi la cité disparaît. Le récit fonde ainsi une conception inclusive de la compétence politique. Chaque citoyen possède au moins une aptitude à reconnaître les normes communes. Protagoras en tire un argument pédagogique. Puisque la collectivité blâme, corrige et instruit ceux qui transgressent, elle agit comme si la conduite pouvait être transformée. Le mythe ne prouve pas au sens strict que la vertu est une science, et Socrate exploite cette réserve. Mais il éclaire une idée durable, l'ordre politique dépend moins de talents exceptionnels que de dispositions morales diffusées par une éducation commune et entretenues par les institutions. Troisièmement, les vertus forment-elles plusieurs qualités ou une seule réalité morale ? Une large part de la discussion examine la structure même de la vertu. Protagoras présente habituellement plusieurs qualités distinctes, telles que la justice, la modération, la piété, le courage et la sagesse. Socrate demande alors si elles sont comparables aux parties séparées d'un visage, chacune ayant une fonction propre, ou plutôt à des manifestations différentes d'une même réalité. Cette question est décisive pour l'enseignement. Si les vertus sont indépendantes, un individu pourrait être courageux sans être juste ou modéré sans être sage. Si elles sont profondément liées, éduquer moralement suppose de comprendre leurs principes communs. Socrate obtient plusieurs rapprochements, il devient difficile de décrire la justice sans la dire juste ou la modération sans lui reconnaître une part de sagesse. Le cas du courage résiste davantage, car il semble possible de rencontrer une audace irréfléchie. Socrate distingue alors le courage véritable de la simple témérité. Affronter correctement un danger exige de savoir ce qui doit être craint et ce qui ne doit pas l'être. Cette analyse soutient la tendance socratique à identifier la vertu à une forme de connaissance. Protagoras ne se laisse pas facilement enfermer dans cette conséquence, ce qui préserve la vivacité du dialogue. le lecteur est conduit à mesurer la difficulté de découper les qualités morales en compétences isolées, comme le font souvent les discours éducatifs ou politiques. Quatrièmement, plaisir, calcul des conséquences et critique de la faiblesse volontaire vers la fin du dialogue. Socrate propose une enquête sur le plaisir et sur ce que l'on appelle couramment être vaincu par le plaisir. Beaucoup pensent savoir ce qui est bien tout en faisant le contraire, parce qu'un plaisir immédiat les emporte. Socrate conteste cette représentation. Si une personne choisit réellement une action nuisible en la jugeant nuisible, il faut expliquer comment son savoir a cessé de guider son choix. Son hypothèse est que l'erreur morale provient surtout d'une mauvaise évaluation. On confond la grandeur apparente d'un plaisir proche avec son importance réelle. On néglige les douleurs futures ou on apprécie mal les effets comparés des actes. Le bon jugement requiert alors une capacité de mesure analogue à un calcul qui compare plaisir et peine sur la durée. Cette position ne réduit pas simplement la vie bonne à la recherche de sensations agréables. Elle utilise la thèse hédoniste comme un test dialectique pour montrer que la conduite juste dépend d'une connaissance des conséquences. Le passage est important car il formule une version ancienne de l'idée selon laquelle la faiblesse de la volonté est souvent une erreur de jugement. Il oblige aussi à distinguer le désir passager de la décision réfléchie. Même si le lecteur refuse cette intellectualisation de la faute, l'argument révèle avec force pourquoi Socrate lie responsabilité morale, lucidité et éducation du jugement. En dernier lieu, deux pédagogies rivales, la rhétorique sophistiquée face à la dialectique socratique. Protagoras ne discute pas seulement une doctrine morale, il met à l'épreuve les formes de parole qui prétendent former la jeunesse. Protagoras apparaît comme un enseignant reconnu, capable de prononcer une grande allocution, de mobiliser un mythe et de relier son enseignement à la réussite civique. Son art répond aux attentes d'une société où parler devant les autres compte pour agir politiquement. Socrate adopte une méthode différente. Il réclame des réponses brèves, précises et susceptibles d'être examinées étape par étape, lorsque la conversation dérive vers une interprétation de poème. Les désaccords sur la procédure deviennent visibles, faut-il juger la valeur de parole héritée ou soumettre les interlocuteurs présents à un examen direct de leur propre position. Platon ne transforme pas simplement Protagoras en adversaire ridicule. Le sophiste est présenté comme habile, prestigieux et souvent difficile à réfuter. Cependant, le dialogue met en question le pouvoir de la parole qui séduit sans rendre ses prémices suffisamment contrôlables. La différence concerne donc moins la longueur des discours que leur responsabilité intellectuelle. La rhétorique peut transmettre des normes et orienter une communauté, mais la dialectique demande que chacun puisse justifier ce qu'il affirme. Pour un lecteur actuel, ce contraste fournit un outil utile pour évaluer les discours d'experts. Les promesses éducatives et les débats publics, une réponse persuasive ne vaut pas encore une réponse examinée. En conclusion, Protagoras convient au lecteur qui souhaite aborder Platon par un texte relativement concentré, mais intellectuellement très riche étudiant en philosophie. Lecteur intéressé par la démocratie antique, enseignant, ainsi que toute personne qui interroge le rôle de l'école et des institutions dans la formation du jugement moral. Sa lecture apporte moins un programme pédagogique immédiatement applicable qu'une discipline d'examen. Elle apprend à demander ce que recouvrent des mots apparemment familiers, comme courage, justice, compétence ou plaisir, et à vérifier si les réponses données restent cohérentes lorsqu'elles sont poussées dans leurs conséquences. Le dialogue permet également de comprendre que les débats éducatifs comportent toujours une dimension politique, former une personne. Ce est aussi définir les qualités attendues du citoyen. Par rapport à de nombreux textes philosophiques qui exposent une doctrine de façon continue, Protagoras se distingue par son équilibre instable. Platon donne à son interlocuteur sophiste une ampleur et une force argumentative inhabituelles, tandis que Socrate ne clôt pas le débat par une solution simple. La conclusion de la discussion inverse même, de manière ironique, les positions initiales sur le savoir et la transmissibilité de la vertu. Cette absence de réponse définitive ne constitue pas une faiblesse éditoriale, elle oblige le lecteur à travailler sur les critères mêmes qui permettraient de dire qu'une qualité morale est enseignable. C'est donc un classique particulièrement fécond pour penser ensemble savoir, persuasion, responsabilité et vie collective. Si vous souhaitez soutenir Platon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.